Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Chaque année, l'ONG anticorruption Transparency International évalue les pays sur une échelle de 0 à 100, du pays le plus vertueux au plus corrompu. Cette année, la Hongrie a chuté de la 50e à la 57e place. S'il n'y a pas eu de manifestation massive comme en Roumanie, le problème commence sérieusement à irriter les Hongrois. Malversations financières, faux projets immobiliers, la corruption est partout. Dernière histoire en date, l'horloge géante de Budapest qui n'indique jamais l'heure, malgré les tentatives de réparation. Et c'est le reportage de Florence Labruyère.
C'était une vieille horloge qui trônait sur la place de Moscou. Tous les Budapestois s'y donnaient rendez-vous. Mais la place a été rénovée et l'horloge remplacée par un obélisque de béton sur lequel est installé un cadran numérique. Cadran qui ne marche pas depuis des mois. Alors un groupe de jeunes a décidé de passer à l'action et de coller sur l'obélisque, avec du scotch, des réveils et des horloges en bon état de marche. Bense Magnoki a 16 ans, il est lycéen.
L'ancienne horloge était vieille, mais elle avait du style. Pas comme ce pilier de béton affreux sur lequel ils ont mis une horloge qui a coûté très cher et qui ne marche pas. Rien à voir avec l'ancienne horloge de la place de Moscou.
Gaspard Bekesh est étudiant. Il a organisé cet événement sur les réseaux sociaux. Pour parodier les chevaliers de la table ronde, il l'a appelé les chevaliers de l'heure ronde.
On protège la continuité du temps. Nous sommes les chevaliers de l'heure ronde qui apportent des horloges qui marchent. Je voulais que les gens s'expriment. Ils ont le droit d'avoir l'heure juste sur une place publique. Les Hongrois passent leur temps à se plaindre et ne font jamais rien, c'est ennuyeux. Alors on a fait quelque chose de marrant, de créatif, quelque chose de cool, quoi.
Zsuzsa Szeles est mère de famille. Malgré le froid, en sortant du bureau, elle est venue apporter une horloge.
C'est une belle petite horloge rouge que j'ai achetée chez un horloger du quartier. Quand je lui ai dit pourquoi je la voulais, il m'a fait 50% de réduction.
La rénovation de la place par la municipalité a coûté au total plus de 16 millions d'euros. Zsuzsa se demande où est passé cet argent.
La Hongrie reçoit beaucoup de fonds européens, mais une bonne partie va dans les poches de quelques-uns. C'est de la corruption. Si tout cet argent avait été réellement investi dans la place de Moscou, ça aurait donné quelque chose de beau. Mais regardez tout ce béton, c'est affreux. L'horloge est un symbole de ce qui se passe ici. On en met une neuve et elle ne marche pas.
Mais les chevaliers sont peu nombreux. Leur événement n'a attiré qu'une centaine de personnes. Et les manifestations de ce genre sont rarissimes. Pourtant, les Hongrois sont de plus en plus irrités par la corruption. C'est le cas d'Adrienne, 25 ans, qui travaille dans l'entreprise familiale de commerce de bois.
Il y a vraiment beaucoup de corruption. L'argent public et les fonds européens vont dans des projets qui ne servent qu'à enrichir des oligarches.
Des centaines de milliers de Roumains sont descendus dans la rue pour protester contre la corruption. Pourquoi est-ce que les Hongrois ne font pas la même chose?
En Roumanie, c'était tellement flagrant que le projet de loi encourageait la corruption. Les Roumains n'avaient pas le choix. Il fallait protester. En Hongrie, la corruption est moins visible. Elle est enterrée dans les textes de loi.
Hello.
Tous les jours, des médias indépendants révèlent des affaires d'abus ou de détournement de fonds publics. Mais ces affaires n'ont aucune conséquence, car malgré les plaintes, le procureur n'ouvre pratiquement jamais d'enquête. De plus, la Hongrie n'a pas de procureur spécialisé dans les questions de corruption, contrairement à la Roumanie où cette institution existe depuis 2007. Miklós Ligeti est directeur juridique de la branche hongroise de Transparency International.
Les Roumains sont indignés parce que le gouvernement veut réduire la compétence d'une institution à laquelle ils font confiance. Les Hongrois n'ont pas cette expérience. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'il y a toujours eu de la corruption et que depuis le communisme, aucun gouvernement, quelle que soit sa couleur, n'a jamais agi de manière crédible contre la corruption.
En Hongrie, aucun ministre n'a jamais été poursuivi, d'où la résignation de la population. Mais il y a des signes positifs. L'ONG Transparency International, qui lutte contre la corruption, reçoit de plus en plus de dons de particuliers.
Tu vois, papa, Ces grands hommes t'ont tracé la voie. Tu as cette chance que tes ancêtres n'ont pas connue. Être européen.
Bonjour Evminou.
Bonjour Catherine.
Alors, lundi 6 février, il y a deux jours en fait, hein, c'était la journée mondiale de la lutte contre les mutilations génitales féminines, comme l'excision. Et les jeunes filles de la ville de Bristol en Angleterre l'ont fêtée à leur manière, Eve.
C'est une petite vidéo où l'on voit un groupe de jeunes filles appartenant à l'ONG Integrate UK danser et chanter dans des tenues plutôt rose bonbon, couronnées de fleurs de toutes les couleurs. Leur voix est plutôt douce, bienveillante, et pourtant, elles réclament surtout qu'on laisse leur clitoris en paix. Et plus globalement, que les hommes arrêtent de se mêler de ce qu'elles doivent faire ou pas avec leur corps. En quelques jours, la vidéo avait déjà été vue plus de 20 000 fois et même attiré l'attention de personnalités britanniques qui en ont fait la promotion, comme par exemple la chanteuse Lily Allen. On écoute un extrait.
Voilà, donc une vidéo réalisée en réaction à un article de The Economist paru il y a quelques mois et qui a fait bondir les jeunes membres de cette ONG.
Oui, car l'article du très respecté magazine britannique soulignait que la lutte contre l'excision patinait et qu'il était donc peut-être envisageable de reconnaître et autoriser des excisions plus courtes, moins dangereuses, car les progrès étaient lents en la matière et l'éradication de cette pratique encore très loin d'être effective. Une position complètement inacceptable pour ces associations qui luttent contre l'excision des femmes dans le monde depuis des années, mais aussi en Europe.
Oui, reste qu'en effet, le bilan est plutôt sombre concernant la pratique et le nombre d'excisions dans le monde ne diminue pas malgré la mobilisation internationale.
Et pour cette 14e journée mondiale de lutte, l'UNICEF estime à 200 millions les femmes et les jeunes filles concernées sur la planète. Dans certains pays où l'excision est quasi généralisée, comme l'Égypte et le Soudan, où les femmes sont excisées à plus de 90%, la mobilisation des pouvoirs publics diminue, même depuis le début des années 2000. C'est une mauvaise nouvelle. Les victimes se trouvent surtout en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi qu'en Indonésie. En tout, 3 millions de petites filles seraient mutilées chaque année.
Oui, on peut quand même noter quelques progrès dans certains pays, Eve.
Notamment au Libéria, où le taux de jeunes femmes excisées a chuté ces dernières années. Elles sont 40% chez les moins de 20 ans, contre plus de 80% chez les plus de 45.
Alors ces combats sont aussi menés en Europe, l'Europe qui n'est pas épargnée par le phénomène.
En France, la pratique concernait environ 50 000 femmes, mutilées pour la plupart durant un séjour dans leur pays d'origine, et le sujet reste peu abordé dans les médias. Pourtant, certaines initiatives personnelles existent. Une jeune Française de 25 ans, Binta Diallo, a ainsi lancé une pétition en ligne l'année dernière. Elle a recueilli plus de 100 000 signatures et a appelé la ministre de l'Éducation à inclure l'excision dans son plan national de sensibilisation aux violences faites aux femmes dans les écoles, appel auquel la ministre a répondu favorablement.
On peut signaler aussi en Belgique, cette semaine, il y a eu comme un bug dans la campagne de l'ONG Plan Belgique qui voulait sensibiliser les réseaux sociaux à cette journée mondiale de lutte.
Oui, la petite vidéo postée sur Facebook reproduisait avec du papier une excision. Elle a été retirée du réseau social par les modérateurs qui ont décelé un contenu adulte, comme ils disent, comprendre pornographique. Comme quoi, dès que l'on parle du sexe des femmes, les esprits s'échauffent, le tabou n'est pas prêt de tomber.
On vous retrouve la semaine prochaine, Eve.
À la semaine prochaine.
Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know.
C'est aujourd'hui que les députés britanniques doivent s'exprimer sur le Brexit. Le Parlement écossais l'a fait hier et s'est prononcé contre à une très large majorité. Un vote symbolique dans la mesure où il n'a pas de légalité. Et il y a bien un député conservateur au moins qui en fera de même, un vétéran de la politique britannique. Ken Clark a été ministre de Margaret Thatcher, de John Major ou encore de David Cameron. Député depuis 1970, témoin et acteur de l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Aujourd'hui, sa foi dans l'Union en fait carrément un rebelle, Marie Billon.
Ken Clark a fait une campagne passionnée pour rester au sein de l'UE. Son camp a perdu, mais il ne s'est pas avoué vaincu. Lors du débat à la Chambre des communes sur la loi du Brexit début février, c'est sa petite phrase mi-humoristique, mi-sérieuse qui a été retenue.
Apparemment, le Brexit, c'est suivre le lapin dans son terrier, puis émerger au pays des merveilles où les nations du monde entier n'attendent que nous pour offrir des avantages commerciaux, des accords. Des gars sympathiques comme les présidents Trump ou Erdogan sont tous simplement impatients d'abandonner leur protectionnisme habituel.
Ken Clark fait référence aux chefs d'État américains et turcs que Theresa May avait rencontrés quelques jours plus tôt. Autant dire que le député était ironique quand il les appelait des gars sympathiques. Un opposant, l'ancien chef du Labour, Ed Miliband, a traduit l'idée d'un des termes plus blessants pour la première ministre. « J'ai du mal à avaler que Brexit signifie Trump ». Paraphrasant la formule vague de Theresa May, « Brexit signifie Brexit ». Pour Ed Miliband, comme pour Ken Clark et bien d'autres, la sortie de l'Union européenne pousse le Royaume-Uni dans les bras de dirigeants dont il se serait fortement méfié s'il n'avait pas été isolé. C'est parce qu'il n'aime pas ce changement de cap que Ken Clark est devenu un rebelle. Il a voté pour l'entrée du pays dans la communauté économique européenne au début des années 70. Il n'aime donc pas voir son travail détricoté 45 ans plus tard. Il est le seul conservateur à avoir voté contre le texte de la loi Brexit la semaine dernière et il s'est à peine fait taper sur les doigts, même son parti n'en attendait pas moins de lui.
Les conséquences du Brexit, elles vont se faire sentir à la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. En attendant, cette frontière voit passer chaque jour quelques 30 000 personnes. La circulation se fait de part et d'autre sans encombre. Et cette libre circulation favorise les magasins situés au Nord. Réputés moins chers, ils voient régulièrement affluer la clientèle du Sud. Une situation qui plombe le commerce côté irlandais. Alors depuis quelques temps, des initiatives tentent de relancer les achats de proximité, sauver les activités de détail. À Dundalk, la mise en circulation d'une sorte de monnaie locale a permis d'éviter le pire. Reportage Julien Lagache.
Il ne faut qu'une vingtaine de minutes en voiture de Dundalk pour franchir la frontière et faire des économies dans les magasins nord-irlandais. Le va-et-vient s'est d'ailleurs accentué ces derniers mois sur fond de Brexit, avec un taux de change et des prix très attractifs pour les frontaliers, de quoi sérieusement menacer les commerces locaux à l'approche des fêtes.
We anticipated. Vers octobre-novembre, on s'attendait à un Noël catastrophique. La livre sterling était très faible. On craignait que les gens ne dépensent leur euro à Newry, en Irlande du Nord. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Les commerçants nous ont dit que leurs affaires avaient tourné normalement, voire mieux que d'habitude, alors qu'on aurait logiquement dû subir la situation. Donc oui, il y a un véritable effet positif.
Cette résistance, Paddy Malone l'attribue en partie au système de coupons qu'il a lancé avec la Chambre de commerce à l'automne 2015. Cela fonctionne comme une monnaie avec des billets d'une valeur de 5, 10, 20 ou 50 euros, mais qui ne s'utilise que dans les enseignes de la ville. À l'origine du projet, les bonus pour les employés. La loi prévoit en effet qu'une entreprise peut en distribuer une fois par an, et s'ils ne sont pas versés comme partie du salaire, alors ils ne sont pas taxés. Voilà pourquoi plus de 250 magasins participent désormais contre une centaine au départ. Et fin 2016, ce sont plus de 500 000 euros qui ont été mis en circulation, plus du triple par rapport à l'année précédente, explique Paddy Malone.
Ça marche remarquablement bien. Les gens comprennent l'intérêt de la démarche. On a vu qu'en fin d'année, le nombre de magasins qu'on a fait travailler ou qui ont embauché des intérimaires est considérable. Il a donc fallu payer des salaires, salaires qui ont ensuite été dépensés localement et qui créent une nouvelle demande. Ça crée un cycle. Et si on a émis pour 500 000 euros de coupons, en comptant leur réutilisation, ça a probablement permis de générer localement plus d'un million d'euros.
Et surtout, cet argent bénéficie en particulier aux petites boutiques indépendantes, dont les bureaux de presse et les magasins de cadeaux qui acceptent, mais aussi qui proposent l'achat de coupons. Ils sont ensuite offerts comme chèques cadeaux, ce qui attire une clientèle régulière pour diverses occasions, estime Monica, qui travaille dans l'une de ces boutiques.
Moi, j'en ai offert un de mes amis. C'est un cadeau assez pratique. Et puis, on peut l'utiliser partout. Un magasin, un restaurant ou même chez le coiffeur. Vraiment partout.
Okay.
Sauf que les enseignes de la grande distribution n'ont pas souhaité intégrer l'opération. Résultat, difficile de toucher tout le monde, notamment pour des courses du quotidien. C'est parce que les coupons sont pour l'instant davantage associés à des cartes cadeaux qu'à une monnaie complémentaire. C'est en tout cas ce que l'on comprend chez Jim, qui tient depuis des années la franchise d'un célèbre fleuriste.
Cette initiative pour Dundalk, c'est une excellente idée. À Noël, j'ai encaissé pour 200 ou 300 euros de coupons en fleurs. On travaille beaucoup sur ces périodes. Le reste de l'année, on voit moins de coupons, mais ils circulent quand même.
D'ailleurs, même à la boulangerie principale, on a su en voir passer en moyenne une dizaine par semaine. Pourtant, on les voit peu sortir des porte-monnaies. La faute sans doute à une forte concurrence entre différents types de coupons et cartes cadeaux distribués par la poste ou par certaines grandes enseignes. Mais pour Mélissa, qui habite le centre, il n'y a pas de raison que le travail de sensibilisation ne fonctionne pas.
Non, je ne vois pas pourquoi. On voit plein de publicités sur ça. Et même si je n'en ai moi-même jamais acheté, je fais mes courses ici. Oui, oui, local. J'habite par là, donc j'achète tout à Dundalk. Et je n'ai jamais vu quelqu'un en avoir non plus, mais je sais que mon entreprise en utilise de temps en temps. En cadeau, en bonus. Mais on se sert aussi d'autres coupons.
Le système des coupons commence donc seulement à s'installer après deux petites années d'existence, avec quand même de belles perspectives à long terme. Dans une autre région frontalière du Royaume-Uni, la petite ville de Letterkenny a adopté les coupons depuis plus de 10 ans, avec un record en 2016 puisqu'il y a été imprimé pour plus d'un million d'euros de billets.
Qu'est-ce que vous faites? Neyle bir şeyler bitti. Sen çünkü avcıysın. Bastırma getir. Koyunlar rüs var. Dinir koy. Şarap getir. Biz senin kadarsın gülüs mü?
Et pour terminer, nous nous rendons en Gagaouzie, cette région autonome du sud de la Moldavie où vivent quelques 150 000 personnes d'un groupe d'origine turque, religion orthodoxe, langue russe. Les habitants tentent de garder intacte leur culture et cela passe notamment par le théâtre. Cette année se joue une pièce qui raconte la grande famine de 1946 à Shadir Lunga, Clémentine Métainier.
Oh, kardeşlik!
La pause est de courte durée pour les acteurs gagaouzes. Il faut reprendre l'acte 2 de la pièce, le plus difficile. Il retrace l'arrivée des autorités soviétiques communistes en Moldavie entre 1946 et 1947. Elles seront à l'origine de l'Holodomor, l'extermination par la faim de centaines de milliers de personnes en Moldavie. C'est un sujet historique qu'a choisi d'interpréter à bras-le-corps une troupe de passionnés de théâtre vivant encore en Gagaouzie. Ils sont architectes, professeurs, informaticiens et ont été piqués par la passion du théâtre. S'ils ne vivent pas de cette énergie, ils l'exercent comme de vrais professionnels, représentant le seul théâtre gagaouze au monde dans des festivals internationaux. Car c'est l'objectif que s'est fixé cette petite troupe guidée par le directeur du théâtre, celui de préserver et faire connaître l'histoire de leur peuple, de leur langue. Le gagaouze est en effet un dérivé du turc imprégné de sonorités bulgares et roumaines. Le sujet de la grande famine n'a pas été choisi au hasard. Mikhail Constantinov est le directeur du théâtre.
Cette année, cela fera 70 ans que nous avons vécu cette famine et nous souhaitions commémorer ce tragique anniversaire. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la collectivisation. Les communistes ont confisqué la nourriture et le blé à la population, ce qui a provoqué une énorme famine. Comme mon père me le rappelait, ce n'était pas tellement le fait de Moscou ou de Staline, mais plutôt de Moldave. Les fainéants, les alcooliques sont subitement devenus communistes à l'arrivée des soviétiques. Et ces gens ont provoqué le chaos.
Это не столько шло.
L'auteur gagaouze de cette pièce, intitulée « Victime de la faim », écrite en 1998, s'appelle Todur Zagnet. Toujours bien vivant, il pourra assister à la première représentation fin février sur les planches du théâtre de Shadir Lunga. La pièce sera ensuite jouée hors les murs, direction les écoles, les villages éloignés, les centres culturels ou encore les lycées moldaves, pour maintenir en mémoire cette tragédie, 300 000 victimes mortes de faim.
À la réalisation d'Accent, il y avait aujourd'hui Mathieu Salabert. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de RFI dans quelques instants, le journal.
Autour de la question.